Bonjour et bienvenue surtout à tous nos auditeurs que j'ai vraiment du plaisir à saluer au nom de toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire pour cette nouvelle saison, la 13e déjà de cette Fabrique de l'Histoire. Et pour cette première semaine de cette saison, nous voulions nous plonger dans un passé lointain, très lointain, en revenant donc sur un personnage mythique, Cléopâtre. Nous le ferons d'ailleurs régulièrement, revenir sur des personnages mythiques comme cela cette année avec d'autres grands personnages de l'histoire comme pourquoi pas Casanova ou encore Alexandre le Grand. Alexandre qui n'est pas si éloigné de notre sujet puisque c'est lui qui fonda Alexandrie, la capitale du royaume Lagide, le royaume des Ptolémées dont Cléopâtre était la descendante. Demain, nous évoquerons la réputation que firent à Cléopâtre les historiens romains, réputation qui a modelé notre regard sur elle jusqu'à aujourd'hui. Mercredi, nous nous arrêterons sur la véritable Cléopâtre et sur son action politique dans ce royaume d'Égypte justement. Avant que le documentaire, donc jeudi, exceptionnellement programmé le jeudi, décortique le mythe de la souveraine d'Égypte. Et aujourd'hui, eh bien, notre invité, je l'ai dit, est Bernard Legras. Il est professeur d'histoire grecque à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Il est l'auteur, entre autres, cher Armand Collin, de l'Égypte grecque et romaine, mais également, c'était à l'automne dernier, de Hommes et femmes d'Égypte, 4e siècle avant notre ère, 4e siècle de notre ère, droit, histoire et anthropologie. Un ouvrage très intéressant justement sur ces relations entre hommes et femmes dans cette Égypte grecque et romaine. Et il prépare une mort de Cléopâtre. Mais auparavant, comme l'an dernier, eh bien nous avons un feuilleton qui ouvre cette émission du lundi. C'est un feuilleton sur les archives nationales. Séverine Yatar et Charles Trou nous ont concocté un feuilleton qui, pendant plusieurs semaines, va se rendre du côté de Fontainebleau, le siège des archives contemporaines des archives nationales. Nous nous y rendons avec elle.
Oui, c'est vrai que c'est important de commencer par la plaque.
Alors, Sylvie Leclerc, vous êtes directrice de ce centre d'archives à Fontainebleau, qui se trouve à 70 km de Paris.
Oui, tout à fait.
Et alors là, une plaque.
Alors, que dit cette plaque? Bon, elle dit que la cité des archives contemporaines a été inaugurée le 14 février 1978. Voilà. Alors, 1978, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce bâtiment où nous sommes, qui s'appelle l'unité numéro 1. Et dans la foulée, on a commencé la construction de l'unité numéro 2, qui a été mise en service en 1984. Et là, vous voyez que, donc, à l'époque, Michel Dornano était ministre à la fois de la culture et de l'environnement, le directeur général des Archives de France de l'époque, Jean Favier, et Claude Auraud, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux.
La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion.
On va s'arrêter une minute dans cette salle.
Pendant plusieurs semaines, eh bien, nous allons donc nous intéresser à ce site des archives de Fontainebleau, près de Paris, qui collecte, conserve et communique les archives des administrations centrales de l'État depuis le début de la Ve République. À l'entrée du bâtiment, Sylvie Leclèche, directrice scientifique, nous raconte justement, pour ce premier épisode de cette série sur Fontainebleau, l'histoire de ce site.
Claude Auraud, c'est un monsieur qui a construit un certain nombre de palais de justice en France, qui était très spécialisé dans l'architecture publique. Et il a construit également les bâtiments des Archives nationales d'outre-mer à Aix et le réaménagement du dépôt central des microfilms à Saint-Gilles-du-Gard. Et il a fait ici un bâtiment qui est très influencé par les théories de l'architecture fonctionnelle moderniste. Ce sont des bâtiments de forme carrée, avec des toits plats, et qui sont reliés entre eux par des galeries, et qui sont surélevés par rapport au sol, sur ce qu'on appelle un parvis, où on est là, actuellement. Et l'aménagement intérieur a été très très soigné. Il y a l'emploi du bois, avec des motifs, on le sent bien, assez géométriques. L'emploi du béton, du verre, également. Déjà. Le verre fumé, ça, ce sont les façades rideaux, en fait, de la fin des années 70. Et donc, voilà, cette plaque, c'est le début d'une longue histoire.
Et Sylvie Leclèche, en fait, bon, alors c'était Jean Favier, le directeur à l'époque, mais il y avait eu un rapport sur les archives nationales et on avait décidé qu'il fallait construire un nouveau bâtiment.
Absolument.
Parce que l'autre était rempli, si je puis dire.
Alors, au ministère de la Culture, on est toujours sous la grande figure tutélaire d'André Malraux. Et en fait, en 1962, André Malraux avait fait faire une enquête dans tous les ministères et on avait conclu qu'il y avait de retard de versement 800 kilomètres d'archives qui auraient dû être entrées aux archives nationales et qui ne l'étaient pas, donc qui se trouvaient dispersées dans les hôtels particuliers du centre-ville ou un petit peu partout. Et les archives nationales, en fait, à Paris, le site a continué de la collecte d'archives jusque dans les années 73 à peu près. Et c'est une circulaire du directeur général Jean Favier qui a dit on arrête la collecte à Paris aux archives nationales, sauf les fonds des minutiers centrales ou les archives privées, et quelques archives présidentielles, mais pour toutes les autres archives des ministères, qui sont volumineuses, il n'y a plus de place pour les accueillir sur le site de Paris. Il faut donc se mettre en recherche d'un autre endroit, et puis de construire un bâtiment à cet effet, pour pouvoir accueillir les archives des ministères. Donc, après cette enquête de Malraux, ce qui est arrivé, c'est que ici, à Fontainebleau, il y avait l'état-major Europe Centre-Est de l'OTAN, qui, en fait, libérait des terrains. Parce qu'en 1966, la France s'est désengagée de l'OTAN. Et ici, il y a eu de vastes espaces mis à disposition de l'État. Et c'est Georges Pompidou, Premier ministre, qui en décembre 1967 a accepté le don de l'OTAN de tout ce terrain-là. Voilà. Donc avec les bâtiments tels qu'ils étaient dessus, mais très très vite, parce que je crois que c'est important pour l'histoire du site, c'est pas de laisser dire qu'ici c'est un ancien camp militaire avec des bâtiments de l'OTAN. Ça, c'est une vision complètement dépassée, surannée. Très très vite, le ministère de la Culture a voulu construire un bâtiment moderne pour abriter les fonds contemporains.
On continue alors.
On continue. Oui, Bon alors là, on est entré dans le bâtiment. Et là, on comprend le projet architectural de Claude Auroux. On arrive dans ce hall qui est très, très vaste. Et ici, on a un escalier monumental qui est très intéressant parce que vous avez des volets droites et des paliers de repos, exactement, en fait, comme un escalier du XVIIe siècle. Donc, ça cible tout de suite une grammaire classique, en fait. Et je pense que pour lui, effectivement, sa fille m'a expliqué que ça avait une signification qui était qu'en fait, dans tout le projet, on lui demande de faire un bâtiment aux lignes assez épurées, donc qui peut avoir un aspect assez austère, mais en réalité, partout où il le peut, il remet de la chaleur, il remet de l'harmonie, il remet de la transparence, il remet de la lumière. Et son projet architectural, c'est les archives sont enterrées sous 2x5 sous-sols, donc elles sont cachées, mais je les rends visibles par le bâtiment en élévation et je signifie à partir donc des différents espaces que je traverse, la fonction d'un bâtiment d'archives national. Donc il faut que ça exprime quelque chose de la nation. Voilà. Donc ce très beau hall d'accueil qui nous sert à faire des petites expositions, un certain nombre de manifestations. Et c'est aussi l'arrivée chaque matin d'un rituel, l'arrivée des navettes de lecteurs.
Ouais, parce que pour y arriver aux archives de Fontainebleau, c'est quand même pas...
Soit les gens viennent par le train et on va les chercher à la gare, soit également le mardi et le jeudi, on les prend en charge le matin, porte d'Orléans, et on les amène ici. La navette ouvre ses portes, et là vous avez un groupe qui descend et qui vient s'inscrire ici et qui monte en salle de lecture. Donc, les gens posent leurs petites affaires. Donc c'est une vie du site qui aussi est très attachante parce que ça montre que les archives, ce n'est pas uniquement du stockage, mais on les communique.
Hein. C'est du public.
C'est du public. Donc ça, c'est quand même la partie visible, effectivement, du service rendu au public.
Séverine Liattard, Charlotte Roux.
La prise du son de ce feuilleton, donc premier épisode d'un feuilleton aux Archives nationales sur le site des Archives contemporaines de Fontainebleau, était assurée par Arthur Gerbeau. Nous retrouverons donc Séverine Liattard et Charlotte Roux la semaine prochaine pour un nouvel épisode lundi prochain. Vous avez écouté Bernard Legras, ce reportage donc sur les archives, en vous disant que tout compte fait, ces archives n'étaient pas tout à fait les vôtres. On y parle des archives de la Ve République et du XXe siècle. Puisque vous êtes historien de l'Antiquité de l'Égypte grecque et romaine. Mais néanmoins, cette question des sources est une question essentielle pour introduire notre sujet, justement, cette semaine consacrée à Cléopâtre dans la fabrique de l'histoire. Bernard Legras, bonjour.
Bonjour Emmanuel Laurentin, merci pour cette invitation. L'Égypte grecque et romaine présente une singularité pour les historiens de l'Antiquité, c'est l'abondance, on pourrait même dire la surabondance des sources qui se sont considérablement renouvelées depuis une vingtaine d'années. Nous avons traditionnellement des sources littéraires, des sources essentiellement de langue grecque. Nous avons évidemment pour l'Égypte, comme pour l'ensemble du monde hellénistique, Polype, Suétone, Diodore.
Les grands auteurs.
Les grands auteurs qui sont bien connus, qui ont été parfaitement édités et qui finalement ne nous apportent pas grand-chose de nouveau, même si nous pouvons toujours les réinterpréter. En revanche, nous avons ce que les historiens appellent des sources primaires, c'est-à-dire des sources qui n'ont pas été réinterprétées, réélaborées par l'écriture littéraire que l'historien fait toujours.
Et pourquoi ces sources primaires sont-elles plus importantes depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, Bernard Legras ? Est-ce qu'il y a des fouilles supplémentaires ? Est-ce qu'on a trouvé de nouvelles choses ? Est-ce qu'on a retrouvé des fonds dans des musées, donc peut-être accumulés par l'égyptomanie du 19e siècle et qu'on a réinterprété ou relu d'une façon différente, Bernard Legras ?
Alors la grande nouveauté qui a été d'ailleurs très largement médiatisée, puisque la télévision en a fait son miel pendant des années, hein, ce sont les fouilles françaises, deux équipes françaises absolument remarquables, très bien dotées financièrement, essentiellement par le mécénat privé, faut-il dire, qui ont fait découvrir l'Alexandrie que nous ignorions totalement, puisque la ville a été reconstruite au fil des siècles et aujourd'hui
a été détruite en partie par la disparition du rivage, en particulier un rivage qui s'est effondré à certains endroits et donc qui fait que c'est au fond de la mer qu'il faut aller chercher des traces de cette Alexandrie antique en particulier.
Absolument, Alexandrie est aujourd'hui le paradis, l'un des paradis de l'archéologie sous-marine. Et donc à la fois dans le port, on a retrouvé les traces du phare, ou du moins ce que l'on présente comme les traces du phare, qui vient un débat historique très important.
Ce sont les fouilles de Jean-Yves Empereur en particulier.
Les fouilles de Jean-Yves Empereur menées par le Centre d'études alexandrines, qui sont des fouilles absolument remarquables. Et on a retrouvé des statues tout à fait étonnantes qui sont aujourd'hui visibles et des blocs de pierre qui permettent aujourd'hui de reconstituer, de modéliser le phare qui était l'une des merveilles de l'Antiquité. Mais d'autres fouilles se sont déroulées dans le port oriental et ont permis de...
Menées par Franck Godiot en particulier.
Alors c'est Franck Godiot qui, lui, est un amateur. Mm-hmm. C'est le grand problème dans la vie scientifique nationale. Faut-il être titré ou un amateur aussi éclairé et aussi talentueux a-t-il aussi le droit de travailler et d'obtenir des autorités égyptiennes le droit de fouiller. C'est un point évidemment tout à fait essentiel. Et il faut rendre hommage au génie français d'avoir su trouver sa place dans deux sites majeur d'Alexandrie. Donc Franck Godiot nous a restitué le port, le tracé du littoral, et nous connaissons aujourd'hui très bien donc le système portuaire, en particulier le port royal où on a accosté Alexandre est arrivé avant, ensuite on a eu Cléopâtre et Antoine, et on connaît aujourd'hui beaucoup mieux les quartiers royaux.
Alors ça, ce sont les fouilles qui permettent d'avoir de nouveaux témoignages épigraphiques, de nouveaux témoignages de statues en particulier, etc. Mais il y a tout ce qui concerne, disons, la vie quotidienne de cette Alexandrie, de cette Égypte sous la dynastie des Lagides, donc des Ptolémées, dont Cléopâtre est la dernière des descendantes. Et donc cette vie quotidienne, on la connaît par autre chose, par ces papyrus qui sont très nombreux et qui font le miel là des chercheurs comme vous, Bernard Legras.
Absolument. Il y a d'une part l'archéologie, il y a bien entendu l'épigraphie, les inscriptions. On en a retrouvé quelques-unes à Alexandrie, pas beaucoup en fait. Et on n'a toujours pas retrouvé la fameuse inscription du phare qui permettrait d'identifier formellement le
Pas plus
le
qu'on a retrouvé véritablement le tombeau d'Alexandre non plus d'ailleurs.
Ah, le pont d'Alexandre, nous ne l'avons pas trouvé.
Et on ne sait pas très bien où il se situe. Et si on trouve le tombeau d'Alexandre, on sait que comme les Ptolémées se faisaient enterrer autour, eh bien on pourrait trouver tous les tombeaux de tous les Ptolémées peut-être par exemple.
Absolument, puisqu'on avait une nécropole royale où se trouvait le tombeau d'Alexandre. Nous avons des hypothèses sur le tombeau d'Alexandre.
C'est sans doute le tombeau d'Albâtre
qui a été retrouvé au début du XXe siècle.
Peut-être.
C'est une hypothèse. À noter que le tombeau de Cléopâtre n'était pas dans cette nécropole. Elle s'était fait construire un mausolée à côté. Donc revenons à nos sources maintenant. Donc nous avons l'archéologie, mais l'Égypte, l'Égypte ptolémaïque et romaine, et avant, bien entendu, depuis les origines de l'Égypte, car l'Égypte est un pays qui a une histoire multimillénaire, ne l'oublions jamais. Le grand bonheur de l'Égypte, c'est celui des merveilles de la papyrologie.
C'est son climat. C'est son climat. C'est parce qu'elle a un climat très sec qu'on a pu conserver jusqu'à aujourd'hui ces papyrus en particulier.
Alors le papyrus, qui est un végétal, ne peut se conserver que dans des conditions de sécheresse absolue, et les bordures désertiques et le désert lui-même de l'Égypte ont permis cette conservation qui est tout à fait exceptionnelle dans l'Antiquité, parce qu'on a retrouvé très peu de papyrus par ailleurs.
Alors vous avez dit, Bernard Legras, 20 ans. Pourquoi ces 20 ans ? Donc on a compris pour les fouilles qui sont relativement récentes, mais pour ces papyrus, ils ont été pour la plupart d'entre eux, j'imagine, trouvés dans les expéditions en Égypte des grands archéologues européens des années du 19e siècle jusqu'au 20e siècle. Où est-ce qu'il y a eu des découvertes là aussi dans ce domaine-là, ou des réinterprétations nouvelles qui permettent justement de mieux comprendre le contexte dans lequel a évolué cette personnalité de Cléopâtre dont nous parlons toute la semaine.
Alors la papyrologie est née à la fin du 19e siècle, peu avant la Révolution française. Le premier papyrus a été publié en 1788. Mais depuis une vingtaine d'années, un phénomène majeur s'est produit. C'est une attention plus grande aux papyrus en langue égyptienne, les papyrus en démotique. Traditionnellement, la papyrologie est essentiellement grecque. Nous avons à peu près 6000 papyrus grecs pour l'époque ptolémaïque. Ce qui est considérable.
Pour trois siècles d'histoire.
Pour trois siècles d'histoire.
Il faut rappeler que cette époque ptolémaïque commence dans les années 320 donc, et qu'elle se termine avec justement la mort de Cléopâtre en 30 avant Jésus-Christ. C'est ça ?
C'est cela. Donc 6000 papyrus grecs. Qui ont été publiés pour l'essentiel à partir du 19e, au cours du 20e siècle. Nous avons fait dans les dernières décennies des trouvailles sensationnelles. Et on pourrait parler tout de suite, puisque c'est le sujet de l'émission, du fameux papyrus de Cléopâtre, qui est un papyrus de Berlin, qui a été publié dans les années 1980, et qui porte la signature manuscrite, la signature autographe de Cléopâtre.
Ça doit être recherché, effectivement.
C'est un document tout à fait exceptionnel qui a évidemment fait couler des tombereaux d'encre, hein, parce que le papyrus est parfaitement conservé. Il est en grec. Hein, c'est sans doute une lettre qui a été... C'est une ordonnance, c'est une décision de Cléopâtre qui a été approuvée par elle-même. Et nous avons sa signature... Hein, on n'a pas Cléopâtre, Cléopâtra, nous avons j'ai approuvé le texte, donc l'ordonnance, ce qui montre que Cléopâtre règne bien. Elle est maître du pays. Donc nous avons de nouveaux papyrus grecs, mais donc la donnée nouvelle, c'est le travail en commun des hellénistes, parce que l'étude des papyrus grecs est le monde des hellénistes.
Ce que vous êtes vous-même.
Oui, absolument. Mais il y a une autre partie tout aussi importante, et il faut travailler de manière équilibrée, c'est la papyrologie démotique, qui est le fait des démotisants, les démotisants qui sont des égyptologues, parce qu'il faut toujours répéter que les égyptologues sont les savants qui travaillent sur l'Égypte d'après les textes en égyptien. Et donc les hellénistes qui travaillent sur l'Égypte et dont je suis ne sont pas des égyptologues. Ce sont des spécialistes de l'Égypte, mais ils sont hellénistes.
Alors, donc cette fusion, ce travail en commun qui semble assez nouveau, à vous écouter, Bernard Legras, permet des révélations, des découvertes, des nouvelles interprétations, et en particulier cette interprétation qui parcourt tous vos propres livres, mais ceux aussi de bien d'autres historiens que nous recevrons cette semaine, cette idée que cette Égypte dans laquelle grandit cette jeune Cléopâtre, donc au premier siècle avant notre ère, eh bien cette Égypte-là, c'est une Égypte multiculturelle. Alors, est-ce que c'est une interprétation d'aujourd'hui ? Il ne semble pas. C'est-à-dire, c'est une Égypte où il y a à la fois des gens qui parlent le grec, des gens qui parlent donc le démotique, cette langue égyptienne. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le reste du monde antique, du Proche-Orient antique. Et que, eh bien, il faut toujours remettre, quand on parle des Ptolémées, et en particulier de cette dynastie dont est issue Cléopâtre, remettre dans la tête de l'auditeur que ça n'est pas une princesse, simplement un pharaon d'Égypte, mais c'est également une reine grecque, une reine qui descend justement des compagnons d'Alexandre, de Ptolémée Ier, qui est accompagné donc dans son épopée, Alexandre le Grand.
Alors le fait que l'Égypte soit multiculturelle, que cohabitent des Grecs et des Égyptiens, est quelque chose qui a toujours été connu. Il y a toujours eu des savants pour travailler à la fois sur les sources grecques et sur les sources égyptiennes. Je ne prendrai qu'un seul exemple, hein, le grand démotisant et helléniste allemand, Wilhelm Spiegelberg, qui était professeur à l'université de Strasbourg au début du XXe siècle, donc dans l'université à l'époque allemande, et qui a fait acheter à Strasbourg une collection papyrologique tout à fait exceptionnelle, qui est la première collection papyrologique française. Les papyrus en France, c'est d'abord Strasbourg, ensuite Paris, et puis un petit peu Lille. Mais cette collection, donc achetée à l'époque de la domination allemande, entre 1871 et 1918, est restée en France après 1918, lorsque l'Alsace est redevenue française. Et ce qui donne une impulsion importante à la recherche papyrologique en France, puisque la France dispose de papyrus. Alors pour revenir à la population du royaume, donc il y a eu après la conquête d'Alexandre et avec la domination des Ptolémées un afflux d'immigrants grecs venus de toutes les régions du monde grec, venus de Grèce propre, venus de Grèce d'Asie, venus de mer Noire.
Voire de barbares parlant grec, barbares hellénophones qu'on a fini par considérer comme des Grecs, même s'ils n'étaient pas considérés par les Grecs eux-mêmes comme des Grecs.
Alors là vous mettez l'accent sur l'un des points les plus intéressants de la civilisation hellénique. C'est que la définition du grec à l'époque hellénistique n'est pas une définition ethnique, ce n'est pas une définition raciale, si je peux me permettre ce terme, c'est une définition fondamentalement culturelle.
Et là, il y a si on est hellénophone, on est grec d'une certaine façon, on est considéré comme un grec dans cette Égypte-là.
Un grec en Égypte, vous avez tout à fait raison, un grec en Égypte, c'est à deux qualités. Et on ne demande que ces deux qualités. C'est premièrement d'avoir des immigrants, d'avoir une famille venue en Égypte. Donc il faut que ce soit une famille d'immigrants. Donc il faut pouvoir prouver que des ancêtres sont venus de ce monde grec qui est la Méditerranée de l'époque. Et d'autre part, d'être hellénophone. Ce qui veut dire que sont considérés comme grecs des populations qui, à l'époque de l'Athènes de Démosthène, donc au IVe siècle, sont considérés comme des barbares. Donc, sont grecs en Égypte, les Sémites, les Juifs, les Iduméens, sont grecs en Égypte, les Thraces, qui pour les Grecs l'époque d'Athènes sont l'emblème même du barbare. Et donc, on a là un mélange de populations venues des vieilles cités grecques, mais également venues de terres qui ont été hellénisées, ce qui donne une dimension culturelle extrêmement moderne.
Mais pourquoi donc cette ruée vers le sud de ces Grecs, donc non pas la ruée vers l'ouest, mais cette ruée des nouveaux immigrants qui descendent en Égypte? Est-ce que parce qu'il y a une crise dans ce monde du IVe siècle avant notre ère, une crise de ce monde grec? Est-ce que parce que simplement les richesses de l'Égypte attirent? Est-ce que c'est parce qu'on leur fait des promesses, en particulier des promesses de terres qui permettront à ces Grecs justement d'être propriétaires terriens et de s'enrichir? Qu'est-ce qui fait que justement il y a cette forte immigration dans cette Égypte donc qui était dominée auparavant par les Perses et donc cette arrivée massive d'immigrants grecs au moment de cette dynastie des Ptolémées au IVe siècle avant notre ère, justement Bernard Legras?
L'Égypte apparaît comme un Eldorado. Les Grecs ont toujours su que l'Égypte était très riche. Hein, c'est son image dans la littérature grecque depuis Homère, hein, finalement. Hein, on retrouve tout cela dans les tragédies du IVe siècle. Donc les Grecs savent qu'il y a il y a de l'argent à faire en Égypte et il y a des terres qui vont être distribuées. Et les Ptolémées, très intelligemment, car ce sont de très grands politiques, vont attirer ces immigrants, justement en leur donnant des terres, en leur faisant ce qu'on appelle des clérouques, c'est-à-dire en leur donnant une terre dont ils vont tirer les revenus en échange d'un service militaire. Donc c'est une manière aussi pour les Ptolémées de se doter d'une force militaire grecque.
Une force militaire qui leur permettra d'être les maîtres pendant très longtemps de toute la Méditerranée orientale, parce qu'on oublie aujourd'hui que ces dirigeants d'Égypte n'étaient pas simplement dirigeants d'Égypte, mais ils dirigeaient du côté de Cyrène et de la Cyrénaïque, l'actuelle partie orientale de la Libye, qu'ils dirigeaient le sud de l'Asie mineure, qu'ils dirigeaient Chypre, qu'ils avaient une grande partie de la Syrie sous leur de la Syrie de ce qui est aujourd'hui la Palestine et Israël, sous leur domination. domination et qu'ils étaient donc les souverains de toute cette partie orientale de la Méditerranée, ayant des points d'appui un peu partout dans la mer Égée en particulier, Bernard Legras.
Exactement, il y a une thalassocratie ptolémaïque. L'une des forces des Ptolémées, c'est leur navire, c'est leur flotte. Et il y a à la fois le royaume des Ptolémées stricto sensu, la vallée du Nil et les oasis, et l'empire des Ptolémées, cet empire qui, en effet, au IVe siècle, domine le bassin oriental de la Méditerranée dans la lutte permanente avec le grand ennemi. Parce que si dans un deuxième temps, le grand ennemi sera Rome, hein, dans un premier temps, le grand ennemi est un autre empire issu de du démembrement de l'empire d'Alexandre, c'est l'empire des Séleucides. On va avoir toute une série de guerres de Syrie dont l'enjeu fondamental est le contrôle de la Judée-Palestine, où nous avons d'ailleurs retrouvé des papyrus, hein, et d'autre part, le sud de l'Asie mineure et l'île de Chypre.
Oui, terminal en particulier de ces routes qui viennent d'Asie plus lointaine et terminal important pour le commerce parce que ce sont des rois qui, ces rois d'Égypte qui favorisent le commerce, qui sont pour le développement de ce commerce parce que ça leur apporte effectivement à cette Égypte et à leur dynastie énormément d'argent, Bernard Legras.
Mais oui, Alexandrie, c'est selon la formule de Strabon, le premier emporion, hein, donc le premier comptoir commercial du monde, hein, de l'ensemble du monde habité. Et Alexandrie vit de l'importation et de l'exportation. Alors là, les exportations, nous les connaissons bien. C'est d'abord le papyrus, qui est le papier de l'Antiquité. Hein, le papyrus nous apparaît aujourd'hui comme quelque chose de tout à fait exotique. Mais pour les anciens, pour les Grecs, puis pour les Romains, c'est un objet de consommation courante. Hein, c'est le papier sur lequel on écrit tous les types de documents. Et là, nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, la vie quotidienne, parce que ce qu'il y a de merveilleux avec le papyrus, c'est qu'on y trouve des textes qu'on trouve sur les inscriptions, en particulier des décrets, hein, donc des textes officiels qui ont...
Mais on y trouve des certificats de divorce, on y trouve des certificats de naissance, on y trouve plein de choses, on y trouve toute la vie quotidienne, tout l'état civil, tout ce qu'on peut savoir également aujourd'hui de l'économie de cette Égypte antique, on le sait grâce à la présence de ces papyrus.
Oui, avec parfois des textes extrêmement émouvants, comme des lettres d'amour, des lettres d'un mari à sa femme, ou d'une femme à son mari, parce que les papyrus sont écrits par les hommes, mais sont également écrits par les femmes, puisqu'il y a dans l'Égypte ptolémaïque une couche de femmes, une partie de la société féminine grecque qui sait écrire.
Alors ça, c'est très intéressant parce que vous vous attardez justement dans « Hommes et femmes d'Égypte », votre livre, Bernard Legras, paru à l'automne dernier avec un sous-titre « Droit, histoire et anthropologie » chez Armand Collin. Vous vous y attardez sur le fait que cette société que vous décrivez comme une société multiculturelle se mélange justement de ces envahisseurs grecs arrivés dans les valises d'Alexandre et de l'autre côté de cette vieille tradition de l'Égypte donc antique. Eh bien, ce mélange entre ces deux traditions va être fécond au point de vue de la façon dont on envisage le mariage, la naissance, la mort, la vie quotidienne d'une certaine façon, puisqu'il va y avoir cohabitation pendant très longtemps et quelquefois interpénétration de ces cultures, transfert culturel justement entre ces cultures qui se mélangent pendant plus de 3 siècles, voire si on continue plus loin, puisque vous expliquez que ça n'est qu'au IVe siècle de notre ère que disparaissent complètement les derniers prêtres, justement, de l'ancienne religion égyptienne, eh bien, pendant presque 6 ou 7 siècles, vont se mélanger, justement, ces traditions issues des envahisseurs grecs et ces traditions locales, autochtones, justement, de l'ancienne religion et l'ancien mode de vie égyptien, Bernard Legras.
Oui, alors il y a à la fois une cohabitation des peuples et des traditions, cohabitation des religions, cohabitation des langues et cohabitation des traditions juridiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles le livre que vous venez de citer porte en sous-titre « Droit, histoire et anthropologie », car l'analyse juridique permet de préciser exactement la place de chacun dans cette société, qui est une société multiculturelle, mais qui est également une société où il y a un pluralisme juridique. Alors ça, c'est une notion extrêmement intéressante, difficilement compréhensible aujourd'hui pour des Français. Où nous avons un seul droit
avec
tous les nationaux.
Avec Napoléon qui a fait une expédition d'Égypte, effectivement, mais qui a un peu uni tout cela. Effectivement, on a du mal à comprendre ça, effectivement.
Oui, donc il y a un droit grec, il y a un droit égyptien, et puis les juifs d'Égypte qui sont une composante majeure de la population, puisqu'on estime que 30 à 40% de la population d'Alexandrie est juive, hein, c'est-à-dire qu'elle parle le grec, mais qu'elle mais qu'elle continue à suivre la religion mosaïque, la population juive peut, si elle le désire, utiliser la Torah, le droit mosaïque, hein, pour ses propres affaires, que ce soit dans le domaine proprement juridique ou dans le domaine commercial.
Donc, multiplicité de droits et donc multiplicité d'attitudes face à la vie, face à la mort, face au mariage, face aux enfants, etc. Et c'est cela qui est passionnant dans ce que vous racontez dans vos divers ouvrages, Bernard Legras, c'est de voir que eh bien, pendant ces trois siècles, il y a des évolutions, il y a des interpénétrations, mais que tout de même subsistent quelques, substrats de l'ancienne Macédoine d'où sont issus les premiers conquérants de cette Égypte, et puis qu'il subsiste également des restes de l'ancienne façon d'être des Égyptiens avant que n'arrivent sur leur territoire ces Grecs.
Absolument, les Égyptiens continuent la vie et les principes de vie qui étaient les leurs avant la conquête d'Alexandre. Et là, on voit la tolérance extraordinaire de ces sociétés où le conquérant, parce que les Grecs sont bien des conquérants, l'Égypte a été conquise à la pointe de la lance. Les Égyptiens ont pu continuer à vivre, à pratiquer...
Pratiquer
la religion, pratiquer leur langue, pratiquer leur culture, sans qu'il y ait une volonté d'acculturation, d'hellénisation systématique. Quand des Égyptiens apprennent le grec, c'est sur une base tout à fait de volontariat. Donc c'est un choix individuel, évidemment dicté comme choix de carrière. Car évidemment, pour un Égyptien, apprendre le grec, c'est s'ouvrir les portes de l'administration grecque, s'ouvrir des postes très élevés, puisque les Ptolémées, dans la cour d'Alexandrie, ont admis des Égyptiens de très haut niveau. Et ces Égyptiens de très haut niveau, nous savons très bien de quelle classe sociale ils viennent, ce sont les prêtres. La caste sacerdotale égyptienne a globalement collaboré avec le pouvoir grec.
Alors ce pouvoir donc parle le grec encore, même s'il doit y avoir encore des restes de ce macédonien des origines. Et vous dites, Bernard Legras, que l'identité politique et religieuse de ces Ptolémées, donc cette dynastie dont Cléopâtre est issue, cette identité politique et religieuse est double, mais que l'identité culturelle, elle est grecque, justement. Et c'est une chose qu'il faut toujours rappeler quand on parle, et on en reparlera dans les autres émissions de Cléopâtre, qu'elle est de culture grecque et qu'elle a donc dans sa tête un imaginaire, même si on a dit qu'elle était plus ouverte que les autres souverains de sa dynastie à la culture locale, à la religion locale, et peut-être même comprenait-elle et faisait-elle les rites de cette religion, on ne sait pas très bien. En tout cas, même si elle est plus ouverte que les autres, elle est de culture grecque et elle est profondément imprégnée de cette histoire des Ptolémées et de cette histoire qui remonte justement à la conquête d'Alexandre.
Absolument. La cour d'Alexandrie et les Ptolémées restent fondamentalement des Grecs. Ce sont des gréco-macédoniens. Et ce qui le montre bien, c'est la bibliothèque royale du musée. Hein, donc la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui n'a pas brûlé sous César comme... on l'a cru longtemps, on ne connaît pas les raisons... De la disparition, c'est tout un débat. Mais donc, cette bibliothèque royale, c'est-à-dire que les livres appartiennent au roi, eh bien, les livres sont tous en grec. Hein. Il y a les livres de la vieille tradition grecque, il y a la nouvelle littérature hellénistique, et les ouvrages barbares, les ouvrages non grecs, qui en font partie, sont tous des ouvrages qui ont été traduits, hein, soit traduits intégralement, comme la Torah hébraïque, ou qui ont été résumés comme les ouvrages égyptiens. Donc dans cette bibliothèque dont les livres appartiennent au roi, il n'y a pas un seul livre qui ne soit pas en grec à notre connaissance. Ce qui montre bien que c'est la culture grecque qui prédomine.
Et alors, vous nous faites un portrait, vous et les autres spécialistes de cette Égypte grecque et romaine, vous nous faites un portrait un peu idyllique de cette Égypte-là, de cette Alexandrie-là, plus grande ville du monde à l'époque, avant Rome, avant que Rome ne la dépasse, donc 400 000 habitants, c'est ce
oui,
qu'on
c'est
a,
cela,
on a
c'est
calculé,
oui.
Avec une enceinte qui fait entre 16 et 20 kilomètres, on ne sait pas très bien, de pourtour, une ville extrêmement riche, qui bénéficie évidemment du commerce venant du Nil et qui arrive jusqu'à elle, mais également du commerce extérieur à l'Égypte pour pouvoir justement servir de lieu de passage. Vous nous faites une sorte de portrait un peu idyllique, donc de communautés qui vivraient côte à côte, sans toujours se mêler véritablement, mais quelquefois en se mêlant. Mais tout de même, il y a eu un autre portrait qui a été fait quand on a mis l'accent à d'autres époques sur les régulières émeutes, sur les tentatives d'assassinat, et puis à l'intérieur de cette famille des Ptolémées, sur les multiples assassinats qui étaient accomplis par tel ou tel contre son père, contre sa sœur, contre son frère. Et Cléopâtre n'est pas exempte, justement, de ces accusations-là. Donc, il y a aussi cette autre dimension-là de cette Égypte, justement, grecque, du temps des Ptolémées, Bernard Legras.
Alors, l'Égypte n'est évidemment pas une terre de paix, une terre irénique. Il y a des tensions. Hein. Les tensions sont multiples. Il y a d'abord des tensions entre les Grecs et les Égyptiens. Il y a des mariages mixtes. Les Égyptiens ont été admis à la cour des Ptolémées, il codirige le pays, en particulier les prêtres de Memphis, mais l'ensemble de la caste sacerdotale n'est pas unanime et il y a des résistances. Ces résistances, on les trouve surtout dans le sud du pays, en Haute-Égypte.
Qui était le lieu des anciennes capitales aussi.
Absolument, dans la région d'Edfou, dans la région de Louxor, il y a eu des révoltes, hein, des révoltes sanglantes. Le clergé, dans cette région où les clérous grecs sont moins nombreux et où le sentiment national égyptien, si le terme de sentiment national a un sens, c'est tout un débat entre historiens. Donc il y a eu une sécession de l'Égypte et il a fallu que les Ptolémées noient dans le sang ces révoltes. Il y a eu aussi, avec la communauté juive, des difficultés. Alors non pas en termes de massacres, de pogroms, cela arrivera dans l'Égypte romaine en 115-117, quand l'armée romaine de Trajan exterminera hommes, femmes, enfants, vieillards en Égypte, à la suite de la grande révolte juive. Mais il y a des textes qui circulent à Alexandrie, en grec, qui sont des textes dont on peut dire avec prudence, que ce sont des textes antisémites hein, qui attaquent les juifs pour ce qu'ils sont sur le plan physique, en considérant que ce sont des hommes impurs, des lépreux, et qu'il faudrait les exterminer. Alors ces textes, qui sont sans doute un héritage égyptien, circulent à Alexandrie, nous les connaissons grâce à Flavius Joseph, hein, qui en a fait une petite anthologie que les spécialistes de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme connaissent bien. Donc il devait aussi y avoir des tensions avec les juifs. Si des textes circulent, il devait aussi y avoir des problèmes à ce niveau-là. Et puis, il y a les tensions entre les Ptolémées. Le pouvoir à l'époque hellénistique est un pouvoir personnel. Les monarchies hellénistiques sont des monarchies militaires. C'est celui qui a la force militaire et l'argent. Et celui qui recueille le résultat des impôts, les impôts qui sont très lourds dans l'Égypte ptolémaïque, qui sont écrasants pour le paysan en particulier, eh bien il y a des luttes dynastiques permanentes pour la conquête du pouvoir. Et ça a commencé très tôt, puisque Ptolémée Ier Sotère, donc le fondateur de la dynastie, avait deux héritiers possibles, son aîné Kéronos, et un cadet, Ptolémée II Philadelphe, bon, c'est le cadet qui va l'emporter. Le premier, Kéronos, n'aura pas d'autre choix que de disparaître dans le désert, et on nous dit déjà qu'il va mourir en étant piqué par un serpent. Alors, est-ce un accident? Est-ce une manière de pousser au suicide un concurrent? Mais donc, dès la fondation de la dynastie, on a des luttes, une lutte fratricide.
Alors, des luttes fratricides, et puis une manière particulière de se transmettre le pouvoir, puisque c'est ce qui a été souvent noté, il y a une façon donc, de se marier, endogamique, de se marier à l'intérieur de ses familles, où on se marie avec son frère, avec sa sœur, ce qui fera de ce mode de gouvernement quelque chose d'un peu particulier dans ce Proche-Orient de l'époque. Qu'est-ce qui explique justement cette tradition à laquelle d'ailleurs va céder elle-même Cléopâtre lorsqu'elle va venir au pouvoir?
Alors la question des mariages endogamiques à l'intérieur de la famille des Ptolémées, entre frères et sœurs de même père et de même mère, ce ne sont pas des mariages entre des demi-frères et des demi-sœurs, c'est vraiment des mariages incestueux, je crois qu'on peut prononcer le terme. Alors disons tout de suite que cette question a passionné non seulement les historiens, mais également les psychologues, les psychanalystes, les sociologues, les anthropologues.
Tout le monde. Hein,
Freud connaissait parfaitement cette question et il a écrit dessus des choses tout à fait intéressantes. Hein. Donc pourquoi ces mariages incestueux? Alors, les historiens apportent des réponses extrêmement variées. Alors, pour certains, c'est un modèle religieux qui relèverait de la tradition égyptienne, justement, le mariage entre Isis et Osiris, donc deux dieux majeurs. Et ça nous permettrait de nous rappeler le mariage entre Héra et Zeus. Donc, il y aurait à la fois un héritage égyptien et un héritage grec. Les spécialistes de l'Égypte ptolémaïque, quand ils travaillent, cherchent toujours du côté grec et du côté égyptien. Donc, il faut avoir une double compétence, véritablement, pour travailler sur cette région. Mais il y a d'autres hypothèses. L'une des hypothèses les plus intéressantes, c'est que les Ptolémées, à partir de Ptolémée II, se considèrent comme des dieux vivants. Attention, ce n'est pas comme les empereurs romains qui seront divinisés après leur mort.
Absolument.
Ils deviennent divus après leur mort. Les Ptolémées sont des hommes et des femmes dieux vivants. C'est tout à fait extraordinaire, bien entendu, parce que ce sont à la fois des souverains puissants, des dieux qui sont honorés dans les temples et qui sont honorés à l'égyptienne et à la grecque.
Eh
donc
oui.
Ils ont...
un double honneur, d'une certaine façon.
Double honneur, double rite, deux langages religieux pour les honneurs.
Leurs titulatures, par exemple, sont à la fois, justement, des titulatures qui les conduisent du côté grec et du côté égyptien à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois descendants d'Isis ou d'Osiris, et puis, de l'autre côté, ils sont descendants de Ptolémée, etc., etc.
C'est ça, ils ont une double titulature, ils ont également une double image. Lorsque vous allez en Égypte, ou que vous allez dans les musées, allez au musée du Louvre, si vous êtes parisien, ou... Dans tous les musées
section
égyptienne ou section du monde hellénistique, les Ptolémées sont représentés soit comme sous la forme de la statue grecque traditionnelle, soit alors sous la forme égyptienne traditionnelle. Et si vous ne lisez pas les hiéroglyphes, parce que la légende est en hiéroglyphes, si vous ne lisez pas les hiéroglyphes, vous ne ferez pas la différence entre un Ptolémée et un pharaon d'avant Alexandre. Car n'oublions pas que les Ptolémées sont à la fois des rois et des pharaons, et que donc, quand on parle de l'Égypte pharaonique, en fait, va jusqu'à la fin de l'Empire romain, puisque les empereurs romains eux-mêmes seront considérés comme des pharaons, Péra en égyptien, aux yeux du peuple égyptien.
Alors, si on en vient, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là pour votre livre « Mes femmes d'Égypte », Bernard Legras, qui est paru donc chez Armand Collin, comme l'Égypte grecque et romaine, paru auparavant. Sur ces questions de rapport entre hommes et femmes, on peut se surprendre de la place que prendra Cléopâtre dans cette histoire, en se disant « Mais voilà donc une société qui permet aux femmes d'accéder au pouvoir. » Est-ce que c'est si vrai que cela, Bernard Legras? Est-ce que ces femmes accèdent au pouvoir parce qu'elles sont justement des Grecs issus de cette longue lignée des Ptolémées? Est-ce qu'il y a une éducation égale pour les hommes et pour les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes dans cette Égypte antique grecque? Et est-ce que, par exemple, être une femme n'est pas un inconvénient dans cette société-là, puisque, d'après ce que je crois avoir lu chez vous, il y a quand même un très grand nombre d'abandons de filles à la naissance et même d'éliminations de filles à la naissance. Donc, d'une certaine façon, Cléopâtre, alors ça, c'est dans la société, peut-être ça n'est pas dans cette société de cour des Ptolémées, mais en tout cas, Cléopâtre a eu d'autant plus de mérite qu'elle était une femme dans cette société donc de l'Égypte antique.
Alors, sur le plan global, on voit une amélioration considérable du statut juridique de la femme, du statut juridique social et économique par rapport à la période de référence qui est la période classique. Mmh. Donc l'époque hellénistique est vraiment une période d'émancipation féminine. On a des femmes lettrées, donc les femmes peuvent aller à l'école, mais n'oublions
on
jamais...
On a même des femmes philosophes, dites-vous.
On a même des femmes philosophes, mais cela, on les connaît surtout à l'époque romaine, avec la grande Hypatie, mais on a également des femmes lettrées de premier plan à l'époque hellénistique. Mais n'oublions pas que l'école est privée à l'époque antique, globalement, et que donc seules les petites filles d'un haut niveau social peuvent accéder à l'école. Donc, pour revenir à...
Je crois que vous avez un petit problème, c'est votre téléphone peut-être qui sonne. Mais ça n'est pas grave, Bernard Legras, on l'entend très peu à l'antenne, donc voilà, ça ne trouble pas nos auditeurs.
Revenons
et ça ne
à nos
Grecs.
Nous.
Voilà. Donc en l'occurrence, grande évolution positive pour les filles, les jeunes filles et les jeunes femmes dans cette société hellénistique, ce qui expliquerait justement, ou pas d'ailleurs, l'arrivée au pouvoir d'une femme comme Cléopâtre.
Alors, pour revenir au niveau dynastique, car il faut toujours distinguer dans l'Égypte hellénistique le
commun.
Le commun, donc les Grecs du pays, hein, et puis la cour, hein, où les choses peuvent être tout à fait différentes. Donc, le pouvoir des Ptolémées est à la fois un pouvoir personnel monarchique, mais c'est un couple qui dirige. Il y a un roi et il y a une reine, et dans les décrets royaux, on mentionne toujours l'épouse, voire les princes également. Donc c'est une famille. Et donc les reines qui ont un rôle officiel, à partir du moment où elles avaient du caractère, où elles avaient du charisme, où elles avaient un talent, ces femmes éduquées pouvaient prendre non pas l'ascendant sur leur époux, bien que la chose soit arrivée, mais jouer un rôle politique, un rôle de conseil. Cela est arrivé très tôt. Cela est arrivé dès Ptolémée II Philadelphe. Donc, il a épousé sa sœur, qui est une grande sœur. Et il est clair, elle a 9 ans de plus que lui, hein, ce qui devait profondément choquer les Grecs, où, en général, les hommes épousent des femmes plus jeunes qu'eux. Donc, ça a dû être un élément aussi de la critique sociale envers ce mariage incestueux. C'est une grande sœur que l'on épouse. Mais, donc, Ptolémée II Philadelphe et a une sœur auprès d'elle qui a joué un rôle majeur. Bon, Cléopâtre, la grande Cléopâtre, revenons à elle.
Cléopâtre 7.
C'est Cléopâtre 7. Il y en a eu 6 avant. Oui. Elles ont toutes joué un certain rôle. Hein. Et dans l'histoire des Ptolémées, on a un ensemble de femmes qui ont pu déployer leur talent.
Alors, ça, c'est vrai au niveau de la cour, au niveau de la vie quotidienne, quand on se promène dans l'Alexandrie de l'époque, par exemple, vous dites que cette égalité des deux sexes, cette amélioration, disons, des rapports entre les sexes dans cette Alexandrie de l'époque et dans cette Égypte de l'époque, est assez flagrante, par exemple, pour la question divorce. Il y a presque égalité, dites-vous, entre les hommes et les femmes dans cette Égypte qui est celle de Cléopâtre à partir du IIe siècle avant notre ère et en particulier au premier siècle.
Absolument, dans les contrats de droit grec, hein, la femme peut prendre l'initiative du divorce, mais il faut qu'elle ait des arguments pour cela. Hein, donc ce n'est pas un divorce d'agrément, il faut que le mari ait commis des fautes, soit incapable de l'entretenir, j'entends dire matériellement, ou que le mari ait commis un certain nombre d'écarts, hein, qui font que madame justifie son divorce ainsi.
Alors, dernier élément de notre discussion, avant de passer à d'autres chapitres demain, mercredi et jeudi, autour de cette personnalité de Cléopâtre, il faut tout de même préciser qu'entre, disons, la fondation de cette dynastie l'Agide, la dynastie des Ptolémées dans cette Égypte, dans la foulée de la conquête d'Alexandre au IVe siècle, et puis la période de Cléopâtre, il y a un autre empire qui est en formation, et cet empire, il va falloir négocier avec lui, c'est l'Empire romain, on en parlera beaucoup dans l'émission de demain, c'est donc ce qui n'est pas encore l'Empire romain, mais c'est donc Rome qui conquiert la Méditerranée, et cela à partir de, disons, de la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Ptolémées, qui sont dans une phase un peu difficile, doivent de plus en plus souvent passer des accords avec cette Rome qui est lointaine et qui va bientôt concurrencer Alexandrie en termes de population, Bernard Legras.
Oui, les Ptolémées ont dû affronter deux ennemis redoutables. Je reviens tout à l'heure, j'en parlais aux Séleucides, mais finalement, c'est eux qui vont emporter la, la partie. Mmh. Avec Rome, ce sera tout à fait différent.
Eh oui.
Rome, c'est une puissance jeune, c'est une puissance montante, qui a commencé par conquérir le bassin occidental de la Méditerranée et que, dans une bonne logique impérialiste, s'est tournée ensuite vers le monde grec. Les Romains admirent les Grecs. N'oublions jamais que l'élite de la nobilitas romaine parle parfaitement le grec et que quand Marc-Antoine, quand César avant lui, quand Octave, plus tard, vont à Alexandrie et qu'ils rencontrent Cléopâtre,
ils parlent en grec.
Est-ce
que c'est une des questions que je me posais? Elle ne parle pas en latin, elle parle en grec avec eux.
Alors Cléopâtre, c'est plus tard qu'il nous dit cela, connaît un peu les langues étrangères. Mais il ne nous dit pas son niveau de langage. Donc,
et donc la langue de la discussion, c'est la langue grecque, justement.
Tout se fait en grec et dans un grec fluide, dans un grec lettré. Paul Venn parle de l'Empire gréco-romain, pour bien dire que l'Empire romain est autant grec que romain.
Et donc, ces Romains vont arriver dans ce bassin oriental, vont voir effectivement tout l'avantage qu'ils peuvent tirer de ce grand royaume lagide, dont j'ai dit qu'il occupait à la fois Chypre, la Cyrénaïque, mais également la Syrie et donc l'Égypte, et progressivement vont obtenir une sorte, par un système de dépouille, obtenir le démantèlement de ce royaume, jusqu'à l'arrivée, justement, de Cléopâtre. Et on va terminer là-dessus, Bernard Legras.
Les Romains vont commencer par pénétrer économiquement le pays, à faire en sorte de se poser en arbitre à l'intérieur de la famille des Ptolémées, justement, dans ces conflits internes. Ils vont agir avec beaucoup d'habileté, beaucoup de détermination pour construire ce qui va finalement devenir l'Empire mondial des Romains, où l'Égypte, annexée, perdra son indépendance. Et il faudra des siècles, voire des millénaires, pour que l'Égypte retrouve son indépendance.
Voilà, merci beaucoup Bernard Legras d'avoir fait ce tour d'horizon qui permettra à nos auditeurs de mieux comprendre quelle était la personnalité de cette Cléopâtre dont on parle toutes les semaines dans la Fabrique de l'Histoire. Je rappelle que vous êtes en train d'écrire, et ça sera fini d'écrire donc à la fin de cette année, Une mort de Cléopâtre qui vous permettra de faire le point à nouveau sur cette personnalité qui paraîtra donc au printemps prochain chez Talendier. Merci Bernard Legras, vos derniers ouvrages, c'est donc... il est un peu ancien, mais il est tout à fait d'actualité. L'Égypte grecque et romaine, c'est chez Armand Collin. Et très récemment, Hommes et femmes d'Égypte, droit, histoire et anthropologie, chez Armand Collin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marsay. Et aujourd'hui, à la technique, Ariane Herbé, à la réalisation, Anne Fleury. Et demain, nous parlerons donc de Cléopâtre vue par les historiens romains.